Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 16h à Conakry, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. En Tunisie, la date de la prochaine élection présidentielle fixée initialement au 17 novembre sera avancée suite au décès ce jeudi du président Béji Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Nabil Bafoun, président de l'instance supérieure indépendante des élections, chargé d'organiser les scrutins dans le pays. Le chef du Parlement, Mohamed Ennasser, qui va être nommé aujourd'hui même président par intérim, a 90 jours pour organiser une présidentielle, un délai qui court jusqu'au 23 octobre, d'où la nécessité d'avancer la date pour respecter le calendrier prévu par la Constitution, a déclaré M. Bafoun, en rappelant que les législatives sont également prévues le 6 octobre. Selon le président de l'instance électorale tunisienne, la question de savoir si la présidentielle sera organisée avant ou après les législatives sera tranchée par les responsables électoraux à une date non encore précisée. Rappelons que les conditions pour se présenter aux élections ont été amendées par le Parlement tunisien en juin, mais le texte n'a pas encore été promulgué par le chef de l'État. En cas de promulgation de ce code électoral amendé, le mania tunisien des médias, Nabil Karoui, ne pourrait pas participer à la prochaine présidentielle. Au Nigeria, l'ONG humanitaire française ACF, Action contre la faim, réclame la libération de 6 de ses employés, dont une femme, enlevée dans le pays par un groupe djihadiste qui a diffusé une vidéo des otages. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans la vidéo diffusée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, branche de Boko Haram, une femme vêtue d'un hijab affirme en anglais qu'elle est membre de l'ONG Action contre la faim. Elle a ajouté qu'elle a été enlevée avec ses 5 collègues, des chauffeurs et agents de santé contractuels de l'organisation humanitaire française, assis derrière elle dans la vidéo. Elle a demandé à son employeur et aux autorités nigérianes d'aider à leur libération. L'ONG a réagi demandant la libération de ses employés qui travaillaient dans le cadre d'un programme humanitaire piloté par elle dans l'état de Borno. Dans un communiqué publié vendredi après l'attaque du convoi dans lequel se trouvaient les employés, ACF a expliqué qu'un des chauffeurs avait été tué. Mais selon des témoignages, les 6 personnes ont été vues transportées par leurs ravisseurs vers le nord-est du pays. Les 6 employés ont été enlevés jeudi en revenant sur leur base à Damasak, à la frontière entre les états de Yobe et du Borno. Ils rentraient d'un village voisin où ACF dirige une clinique lorsque des hommes armés ont ouvert le feu, selon une source humanitaire qui travaille dans cette région.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Contestation au Soudan. Les leaders de la contestation ont annoncé ce jeudi avoir mis fin à leur dissension avec les groupes rebelles soudanais. Déclaration faite aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie où ils s'étaient rendus pour négocier avec 3 groupes rebelles qui avaient rejeté l'accord de partage du pouvoir au Soudan signé le 17 juillet par les militaires dirigeant actuellement le pays et les chefs de la contestation. La finalisation de cet accord a été reportée après son rejet par les groupes rebelles, membres du mouvement de contestation, pour qui des questions clés comme la nécessité d'amener la paix dans les zones de conflit au Darfour, au Nil Bleu et au Kordofan Sud n'avaient pas été traitées. La déclaration d'Addis Abeba mettant fin aux dissensions avec les groupes rebelles a pour objectif d'établir la paix avec tous les groupes armés, a déclaré la SPA, l'Association des professionnels soudanais, FR de lance de la contestation, dans un communiqué sur Facebook. Une avancée qui devrait accélérer la formation du gouvernement civil de transition au Soudan, a souligné la SPA. Et puis au Zimbabwe, la ministre de l'Environnement et du Tourisme, Prisca Mufumira, a été arrêtée par la Commission anticorruption du Zimbabwe, dont la direction vient d'être remaniée par le président Emmerson Mnangagwa. C'est ce qu'a annoncé le journal d'État de Herald ce jeudi. Madame Mufumira est le premier responsable à être ciblé par la Commission anticorruption nouvelle formule, et aussi le premier ministre en fonction, issu du parti au pouvoir, la ZANU-PF, a été appréhendé dans une affaire de peau de vin durant la présidence d'Emerson Mnangagwa. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
La Minute Écho avec Nanit Talani. La Banque centrale du Zimbabwe a autorisé ce mercredi les sociétés pétrolières, les mines de chrome, les ambassades et les organisations internationales à effectuer des transactions locales en devises étrangères, à l'heure où le pays lutte contre une crise monétaire sévère et une inflation en forte hausse. Le mois dernier, le Zimbabwe a interdit l'utilisation de devises étrangères dans les transactions intérieures après avoir fait de sa monnaie RTGS l'unique monnaie légale, mettant fin à une décennie de dollarisation. Les revenus de la société publique éthiopienne de téléphonie Ethio-Telecom ont atteint 1,26 milliard de dollars, soit une hausse de 7% au cours du dernier exercice 2018-2019. Des réductions tarifaires drastiques allant de 40 à 50% ont été apportées à tous les produits et services dans le but de garantir l'accessibilité, d'améliorer l'utilisation des services et la satisfaction de la clientèle. Ces réductions ont augmenté l'utilisation de données de 130% et les appels vocaux de 19%. Pour terminer, la croissance du PIB égyptien devrait ralentir à 5,5% au cours de l'exercice en cours, comme prévu par le FMI en avril. Ce chiffre est inférieur à l'objectif fixé par le gouvernement. Hormis le secteur pétrolier, l'économie égyptienne a du mal à attirer les investisseurs étrangers depuis le soulèvement de 2011.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Musique et info pour chacun, VOA Afrique.